Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 7 février, il est 8h30. Au programme de cette matinale, c'est un plaisir d'accueillir en plateau Marie-Christine et Jean. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Pour l'association 48 de cœur, alors si votre événement du 24 et 25 février prochain est complet, la fameuse soirée 48 de cœur, vous venez nous parler de votre asso, de vos besoins, de vos missions, ce sera dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, j'étais en rencontre de la Pierre Sèche et de la Lose, c'était à Mende, c'était ce week-end, et j'ai fait vraiment des très belles rencontres, c'est tout un univers la Pierre Sèche, et en Cévennes, c'est ô combien précieux, on écoutera ça tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab, et c'est parti exceptionnellement ce matin, pas d'édito. Nous sommes donc avec Marie-Christine et Jean. Merci d'être avec nous. Vous faites donc partie de cette formidable asso 48 de cœur. Bonne nouvelle pour vous, puisque comme je le disais, votre événement du 24 et 25 prochain au Théâtre de Mende est complet. Alors le succès de cet événement que vous proposez chaque année depuis 12 ans, c'est ça?
C'est en effet la deuxième année.
La deuxième année prouve en tout cas que la solidarité est plus que jamais présente, puisque tous les bénéfices vont au Resto du Cœur.
Alors, tous les bénéfices du concert vont au Resto du Cœur, et même un petit peu plus que les bénéfices, puisque nous reversons l'excédent de notre association. Grâce à nos partenaires, nous arrivons à dégager un petit peu d'excédent. Et donc, nous reversons un tout petit peu plus que le bénéfice des concerts.
Alors, en moyenne, à l'année, hein, depuis 12 ans, combien vous rapportez environ au resto?
Alors, l'an dernier, nous avons rapporté 28 000 et quelques. J'ai plus le chiffre exact en tête. Chaque année, on arrive à en donner un petit peu plus. On essaye de serrer les boulons sur la comptabilité. Donc, cette année, je ne sais pas encore. Vous découvrirez ça le jour du concert.
Alors Jean, quand et pourquoi elle est née cette asso 48 de cœur?
Alors un jour on a fait un bœuf avec les copains, et puis il y a une copine qui a dit tiens, pourquoi on ne ferait pas les enfoirés lozériens. Voilà, c'est parti comme ça. Et à cette époque-là, donc son fils était au conseil municipal des jeunes à Mende, et ils avaient un projet à monter, donc ils ont monté ce projet. Il y a eu une subvention de la mairie à l'époque. Alors on s'est dit, bon, si 30 musiciens mènent 10 spectateurs, on payera la sono, puis on a rempli. Et puis l'année d'après, donc, on a décidé de monter l'association, donc l'association 48 de cœur. Et puis on a fait un concert, puis deux, et puis trois, voilà.
Et puis là, 12.
Voilà, donc on a la 12e édition, on a sauté simplement l'année Covid.
Et oui, évidemment.
Voilà, où on a vendu des t-shirts, on a quand même donné 10 000 euros cette année-là. Voilà.
Alors au début de l'hiver, on a entendu l'appel du président des restos. Hein, de plus en plus de personnes vivent dans des situations compliquées. Les repas distribués ont augmenté de manière incroyable. Est-ce que vous connaissez un peu la situation en Lozère? Comment ça se passe pour les restos ici?
Alors, on ne connaît pas la situation de façon très précise, mais on sait que le nombre de bénéficiaires a augmenté et que leurs besoins sont de plus en plus importants. La Lozère n'échappe pas malheureusement à la précarité grandissante qu'on a actuellement en France. Hein.
C'est bien dommage. En tout cas, ça prouve qu'on a plus que jamais besoin de vous. Concrètement, comment vous fonctionnez? Comment fonctionne votre asso?
Alors, nous avons à partir de l'élection du bureau, donc qui a lieu chaque année comme toute association au niveau de l'Assemblée Générale, nous faisons ce qu'on appelle un concept, c'est-à-dire qu'on réfléchit un petit peu sur un fil conducteur au niveau du concert, et ensuite on fait un appel au niveau des adhérents pour qu'ils nous proposent des morceaux. Voilà, donc ce sont les adhérents qui nous font des propositions. En général, on a à peu près une centaine de projets qui nous sont proposés, très très différents. Hein. On a du français, on a de l'étranger, on a du rap, on a du slam, on a un petit peu de tout. Et le bureau ensuite fait un choix de 20 morceaux de façon à créer une cohérence au niveau du concert, et donc qui puisse correspondre aussi au concept que l'on a défini, qui cette année, on se la coule 12. Voilà.
Bien joué. Voilà.
Et à partir de là, chaque chef de projet, c'est-à-dire ceux qui ont proposé la chanson, constitue son équipe. Et puis il commence à répéter, donc à partir du mois de septembre jusqu'au concert.
Ouais, ça prend un peu de temps. Alors, un événement que celui que vous organisez fin février, ça doit représenter une logistique de dingue. D'ailleurs, vous vous définissez sur votre site comme de doudingue. Ça m'a fait rire. Il faut être un peu fou pour faire ce que vous faites.
Oh oui, je crois qu'il faut être vraiment fou. Voilà. Et par contre, on a depuis 12 ans, on a une logistique et une organisation bien calée, bien huilée, ce qui permet bon, d'arriver à ne pas trop être épuisé quand on arrive au moment du concert et que tout se passe bien. On a des commissions qui se créent, on a des responsables de la sécurité, des responsables de la trimballe, ce qu'on appelle la trimballe, hein, ceux qui courent sur le plateau, les gens de l'ombre, hein, donc, ouais. dont on ne parle jamais. On a une commission qu'on appelle Miam Miam, qui nous nourrit pendant les générales et pendant le concert. Ça aussi, ce sont des gens de l'ombre dont on ne parle pas suffisamment, mais qui sont aussi importants que ceux qui montent sur scène. Voilà, on a une organisation vraiment parfaite.
Jean, si j'ai bien compris, vous êtes responsable, entre guillemets, des sponsors, des partenaires. Alors justement, pour fonctionner, qui sont-ils, ces sponsors, ces partenaires ?
Alors, les partenaires, on a deux sortes de partenaires. On a des partenaires qui nous donnent de l'argent, hein, tout simplement.
Sous forme de mécénat, je suppose.
Sous forme de mécénat, mmh. voilà. Et puis, on a beaucoup, beaucoup de gens qui nous aident sur un peu tout. Alors, on a sur, par exemple, Kézak qui nous donne des bouteilles de Kézak. On a les yaourts, on a du fromage. Enfin, on nous fait des dons en nature qui nous permettent de nourrir nos adhérents. On a aussi de l'aide au niveau des décors, c'est-à-dire il y a des gens qui nous donnent la peinture, des voilà. Donc après on a tous les coiffeurs, la ville demande d'une manière générale, voilà. Et surtout la ville demande qui est notre plus gros sponsor parce que la ville demande nous fournit quand même le théâtre gratuitement et une autre salle, la salle d'Antirouille, qui nous permet quand même de fonctionner agréablement.
Voilà. Donc les collectivités territoriales vous suivent ? Département, oui. Région aussi peut-être ?
Non. La ville de Mende seulement nous fait des prêts donc, de matériel ou des prêts de locaux.
Alors justement, est-ce que vous en cherchez encore des partenaires ? Et si oui, comment on peut devenir partenaire de 48 de cœur ?
Alors partenaire, ça demande d'avoir une... Bon, on cherche des partenaires dans différents domaines. Bon, cette année, par exemple, on a le Crédit Agricole qui rentre comme partenaire. On a une entreprise de nettoyage, Humber. On a les Carboulets. On a. Voilà, donc ce sont des gens un petit peu d'horizons un petit peu différents.
Et donc, on doit aller sur le site, je pense qu'il y a un onglet à devenir partenaire.
Oui, après, je fais la prospection, bien sûr. Et oui, bon.
Parlons des autres besoins. Quels sont les besoins aujourd'hui de votre asso, si tant est qu'il y en ait ?
Alors, je pense que ce dont on a besoin, ça va peut-être surprendre, mais c'est aussi un renouvellement de nos bénévoles, parce qu'il y en a quand même qui sont là depuis 12 ans, qui ont envie un petit peu de souffler. On a la chance d'avoir chaque année quand même, on va dire, une quinzaine de bénévoles qui nous rejoignent, hein, d'horizons totalement différents. Mais c'est vrai que si on a d'autres bénévoles et d'autres musiciens ou chanteurs qui nous rejoignent, on n'est pas contre. D'autant plus que c'est une grande aventure. Nous avons des bénévoles qui sont sur tout le département, qui ont tous les âges, puisque notre plus jeune, il a 15 ans cette année. Je ne sais pas quel âge a le plus vieux, parce que je ne regarde pas les dates de naissance, mais il n'est pas loin des 80. Et voilà. Et puis, nous avons, on va dire, tout niveau social, puisque le but de l'association, c'est bien sûr le concert, c'est notre but principal, mais c'est aussi de faire du lien social et de permettre à des jeunes d'être formés à la scène, d'être formés au chant, à la musique, voilà, donc de monter en compétence sur le domaine donc, du spectacle et du concert.
Pour celles et ceux qui voudraient vous rejoindre, à peu près, en moyenne, ça représente quoi en investissement de temps sur un an comme ça ?
Alors, ça va dépendre de chacun, de la façon dont il veut s'investir. Voilà. Un musicien qui veut s'investir, ça va dépendre du nombre de morceaux qu'il a envie de jouer. Ça peut représenter énormément d'investissements. Y en a qui ne s'investissent moins, par exemple ceux qui sont dans certaines commissions, qui en fin de compte, ont surtout énormément de travail au moment du concert, mais beaucoup moins. Après, nous avons par exemple des gens qui font du bricolage. Et ben, c'est une fois par semaine, on se retrouve au local pour bricoler, faire les décors, puisqu'on fait nos décors nous-mêmes. Voilà, donc chacun peut s'investir selon son envie et selon ses capacités.
Vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, il y a quand même, il faut quand même avoir un engagement très fort parce qu'on a des, on met quand même des contraintes importantes. Par exemple, le mois de janvier, le mois de février, tous les week-ends sont pris, quoi.
Ouais, voilà, donc pour la préparation de l'événement, évidemment.
Oui, oui. Ensuite, on a une organisation très militaire. Quand je dis très militaire, c'est...
Oui, vous me faites peur.
On nous l'a dit. Non, on nous l'a dit parce que il faut être très précis, surtout quand on fait le spectacle. Il faut pas... On est 20 à 60 sur scène, donc ce qui fait qu'il ne faut pas qu'il en manque un. Bon, s'il manque un batteur ou un bassiste, c'est quand même embêtant. S'il manque une personne au cœur, ce n'est pas trop grave. Mais il faut quand même une très grande discipline.
Comment ça, il manque quelqu'un au cœur, ce n'est pas grave, non. Non, ce que dit Jean est vrai. Quand on a un bénévole qui vient de notre association, ce qu'on lui demande, c'est que s'il s'engage sur quelque chose, il s'engage. C'est-à-dire qu'il ne nous lâche pas au dernier moment ou qu'il ne nous dise pas, j'avais oublié la date de la générale, donc je ne viendrai pas. Ça, c'est une chose qu'on a du mal à accepter, parce que ça peut mettre en effet en péril la qualité du concert que l'on propose.
Voilà. C'est ça, et puis qu'on se rende compte un peu, je ne pense pas qu'on l'ait abordé, ça représente un public de combien de personnes, la soirée de jour ?
Alors, nous avons 3 spectacles, 900 personnes à chaque fois.
Voilà, le calcul est assez vite fait, quasi 3000, quoi.
Voilà.
Ça demande quelque chose. Est-ce que, justement, ça n'impressionne pas ceux qui viennent comme ça, peut-être pour la première fois, deuxième fois, de monter comme ça tous les soirs devant 900 personnes ?
Si, mais même les anciens. Hein. Même les anciens peuvent être impressionnés. Notre but, justement, c'est de leur apprendre à ne pas avoir trop de tract, à être à l'aise. C'est pour ça que l'on dit toujours qu'il faut être prêt à 150% pour pouvoir être à 100% sur le concert. Si, c'est certainement impressionnant. Alors souvent les personnes qui arrivent dans l'association qui veulent s'investir sur scène, souvent elles vont aller dans des morceaux ou des chorales par exemple, puisque nous avons des chorales, ça leur permet de voir comment ça fonctionne, ça leur permet d'être à l'aise avant d'envisager de se retrouver toute seule devant un micro en lead, ce qui est beaucoup plus compliqué. Mais même les anciens, même moi qui fais ça depuis 12 ans, je suis très impressionnée quand je monte sur scène et que j'ai devant moi une salle noire où je sais qu'il y a 900 personnes qui nous regardent.
Puis on dit toujours, le stress, ça peut être paralysant, mais quand il est bien, il devient vraiment synonyme d'énergie. Est-ce que vous travaillez avec quelqu'un qui va chapeauter tout ça, la metteuse en scène.
Alors, nous avons ce qu'on appelle une commission artistique qui est faite de 3 personnes qui sont 3 très bons musiciens. C'est Luigi Rutigliano, que beaucoup de monde connaît en Lozère, Joël Brugeron et Bruno Del Corso, qui sont, on va dire, nos 3 piliers au niveau de la musique, avec d'autres personnes qui s'y connaissent bien en chant et donc qui aident et qui permettent d'abord d'homogénéiser donc le spectacle, et puis qui sont là justement pour aider, pour conseiller, pour voir les petits détails ou les personnes qui pourraient avoir des difficultés. On n'élimine jamais personne, hein. Quelqu'un qui est en difficulté, on va lui trouver simplement quelque chose d'un petit peu plus, peut-être d'un petit peu plus simple ou une autre place, mais voilà, tout le monde doit trouver sa place dans notre association, c'est le principe.
Alors on ne va pas vous souhaiter du succès pour fin février, il est déjà au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024 ?
Mon Dieu !
Et 2025
Le seul souhait qu'on pourrait avoir, c'est de ne plus exister, parce que ça signifierait que nous n'avons plus besoin de nous. Que ça se passe bien, voilà, que les gens se régalent. Nous régalons sur scène, et je pense que le public s'en rend compte. Mais ce qu'on veut, c'est que le public se régale pour qu'il revienne en 2025, pour qu'on puisse continuer à aider les Restos du Cœur de Lozère, parce que je précise que l'argent reste en Lozère.
Finissons, là, cette année, on disait hors antenne que vous aviez amélioré pas mal de choses au niveau communication, réseaux sociaux, etc. Et ça, ça a vraiment aidé, puisque les places sont parties en un mois.
Alors, les places sont parties vite, en effet, cette année. On a pris le choix de mettre une grande partie des places sur Internet, pour les gens qui sont ni Mandois, ni Marvejolais, donc, puisque c'était les 2 points de vente. Et par contre, cette année, on demande quelque chose de plus au public. Cette année, on leur demande 2 choses. Le thème, c'est « On se la coule 12 ». Donc, on leur demande de venir... s'ils veulent, bien sûr, avec un petit accessoire, on va dire, cool. Hein, on leur laisse le choix, donc que ce soit des lunettes de soleil, un chapeau, enfin, ce qu'ils veulent, voilà, pour rester dans le thème. Et la deuxième chose, c'est que sur les réseaux sociaux, on a diffusé, donc, dimanche dernier, un petit flash mob sur une chanson qu'on n'a pas dévoilée, bien sûr, puisqu'on ne veut pas spolier le spectacle comme chaque année. Ben, on leur demande de jouer le jeu, d'apprendre le flash mob, de façon à ce que, lorsque la chanson arrivera, eh ben, ils participent et qu'ils dansent cette année avec nous. Voilà, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose d'amusant. Donc, on leur propose de jouer le jeu.
Jean, un petit mot de conclusion ?
Ben, on espère... cette année, on a eu beaucoup de jeunes, ça, c'est bien, de recrutement. Et on espère en avoir les années futures, parce que, bon, ça, il faut que ça tourne, parce que c'est quand même un gros, gros travail. Donc, voilà.
Pour adhérer, pour soutenir 48 de cœur, c'est assez simple, 48decoeur.com. Et pour assister au spectacle, eh bien, ce sera en 2025, puisque les spectacles sont complets fin février. Merci beaucoup Marie-Christine, merci Jean.
Merci à toi.
Et bravo pour tout ce que vous faites. Et très bon spectacle à vous. Allez, on fait une petite pause musicale jazzy, avec une version intéressante de Stay Alive.
I'm a dancing man and I just can't lose now. It's alright, it's okay. Live to see another day. You can try to understand. Do your times if they don't make it. Whether you brother or whether you mother, you staying alive, staying alive. Either the city shaking and everybody begging him, staying alive, staying alive.
Vous êtes bien sur Radio Bartas sur le 107. Le week-end des 2 et 3 février, c'était les rencontres de la Pierre Sèche et de la Lauze à Mende. J'y étais et j'y ai vu un monde absolument incroyable. Rencontre donc avec Benjamin Dessolin, qui est directeur des ABPS, artisan bâtisseur en pierre sèche, et avec Vincent Cossanel, artisan muraillé lausier. C'est parti.
Benjamin de Seningue, donc je suis directeur de l'association Artisans Bâtisseurs en Pierre Sèche, qui est à la fois une association d'artisans, une école de formation professionnelle de la pierre sèche, et également en charge du développement de la filière pierre sèche, avec laquelle on développe de multiples partenariats sur de la reprise de ressources en pierre, carrière, sur du travail avec les scientifiques, sur le dimensionnement des ouvrages, ou tout simplement sur de la sensibilisation grand public ou documentation de patrimoine.
Alors c'est absolument incroyable parce que la pierre sèche avait perdu un peu de ses lettres de noblesse et là ça fait une vingtaine d'années à peu près que ça revient. Aujourd'hui on est à Mende aux rencontres de la pierre sèche et de la Lauze. Qu'est-ce qui fait que ça ait repris comme ça un peu d'importance? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça?
D'abord l'implication des artisans qui avaient gardé le savoir-faire, qui se sont regroupés entre autres sous l'impulsion du Parc National des Cévennes, qui ont d'abord recréé des réseaux de bâtisseurs qui leur ont permis de se rencontrer, d'échanger, de travailler sur des guides de bonnes pratiques pour référencer les savoir-faire, et de fil en aiguille en fait ces bâtisseurs avaient enregistré les bonnes pratiques et se sont mis en fait à transmettre ces bonnes pratiques, donc à former, à créer l'école de la pierre sèche, ce qui intéressait aussi les scientifiques. Et en fait grâce au travail qui a été fait sur les règles professionnelles, aujourd'hui on a des calculs de dimensionnement modernes des murs de soutènement en pierre sèche, ce qui permet en fait de represcrire de la pierre sèche avec des garanties décennales, un cadre assurantiel. On a parallèlement des diplômes qui ont été créés, les CQP, certificats de qualification professionnelle en pierre sèche. On a trois niveaux aujourd'hui qui permettent en fait à des artisans de s'installer sur le métier de bâtisseur. Et on est passé de la préservation d'un savoir-faire avec une vision un peu patrimoniale au redéveloppement d'un métier et aujourd'hui de la filière. Donc on est sur à peu près 250 personnes diplômées du CQP ouvrier professionnel en pierre sèche. Et on a à peu près aujourd'hui 400 entreprises qui travaillent en France sur du soutènement pierre sèche. Donc c'est un métier qui se redéveloppe et qui est redevenu un métier contemporain qui répond aux grands enjeux qui sont ceux du XXIe siècle.
Parlons-en de ces enjeux et parlons de l'intérêt aujourd'hui de construire en pierre sèche. C'est quoi un peu tous ces enjeux?
Alors, il y a de multiples enjeux. D'abord, il y a la vision qu'on a un peu carte postale dans les Cévennes, on va dire. La pierre sèche, il y en a partout, c'est un savoir-faire vernaculaire, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine qui convient de rénover, d'entretenir. C'est un patrimoine aussi qu'on crée de façon contemporaine. On crée, enfin c'est ce qu'on aime à dire, on crée le patrimoine de demain. Le patrimoine, c'est pas créé comme ça. Et donc effectivement, il y a des gens qui le mettent en œuvre. C'est un gros avantage aussi constructif, on va dire, d'un point de vue écologique. C'est une réserve de biodiversité par rapport à d'autres techniques constructives. On est effectivement sur des avantages très nets par rapport à l'impact carbone sur ce qu'on peut voir en ciment ou d'autres techniques. C'est l'emploi de ressources locales et de travail local. C'est ce qu'on appelle les analyses de retombées territoriales. C'est un peu techno. Pour être très concret, quand vous faites un mur en pierre sèche, vous prenez de la pierre locale, vous payez quelqu'un pour la faire. Quand vous faites du béton, vous achetez des sacs de ciment souvent en Chine ou en Espagne et en fait, vous avez déjà 40-50% du prix du chantier qui part pour des matériaux qui n'ont pas un impact si important que ça. Donc rénover en pierre sèche ou construire des murs en pierre sèche, c'est un mode constructif qui est adapté à de nombreux territoires. Ça permet de laisser passer le cycle de l'eau, ça permet de retenir les terres tout simplement, ça permet de créer des réserves de biodiversité. On a un cycle de l'eau qui est bien, bien meilleur que ce qu'on a autrement. Et ça permet tout simplement de redonner vie aussi à des territoires et de créer de l'emploi dans les territoires, donc à des jeunes de s'installer et de perpétrer un savoir qui aujourd'hui est terriblement contemporain.
Là, vous avez eu la visite vendredi lors de ces rencontres. C'était rencontre pro le vendredi. Aujourd'hui, c'est ouvert au public. Parlons d'abord des rencontres pro. Vous avez la visite du sénateur, vous avez la visite du préfet. Est-ce que tu sens un attrait justement pour les politiques de s'intéresser un peu à tous ces bâtis?
Alors oui, il faut saluer d'abord le travail qui a été fait par tous les membres, les artisans. À noter aussi qu'on est sur les rencontres nationales de la Loze et de la Pierre Sèche, puisqu'aujourd'hui on travaille avec les Lozy couvreurs, mais on travaille aussi avec des carriers, puisqu'on essaye de faire une filière patrimoniale unie, de se regrouper. Oui, on sent clairement que les enjeux de la Pierre Sèche aujourd'hui répondent aux besoins des territoires. D'abord parce qu'on a des partenariats historiques avec le commissaire de Massif Central, qui a permis là pour le coup réellement de travailler sur la partie recherche, sur la partie développement, mais parce que ça fixe des populations, tout simplement. Aujourd'hui, les jeunes qui passent les diplômes chez nous apprennent un métier, s'installent, et on a, je crois, 85% qui créent des entreprises et qui vivent dans les territoires, en fait. Donc ça permet à la fois de permettre à des gens de bosser, tout en retapant le patrimoine, tout en embellissant le patrimoine, et puis ça fait vivre politiquement, on va dire, les services publics, les écoles, et c'est des choses qui sont aussi importantes sur les territoires de montagne. On est aussi en phase avec ce qu'on va appeler, entre guillemets, la stratégie bas carbone, mais la Pierre Sèche répond effectivement tout à fait à ses besoins, et sur la question patrimoniale, c'est pour ça qu'on travaille avec les carrières aujourd'hui, c'est le besoin de sauvegarder les carrières pour la pierre à bâtir, parce qu'aujourd'hui c'est une ressource qui disparaît. Et on a besoin aussi de travailler sur l'ensemble de la filière, depuis l'extraction de la pierre jusqu'à sa mise en œuvre. Et donc on travaille aujourd'hui en partenariat avec l'association Artisans Lozy Couvreurs. Et on vient de créer une nouvelle association avec les carriers et les artisans bâtisseurs qui s'appelle donc Culture Pierre.
Aujourd'hui, c'est donc l'ouverture au public. Bon, là, c'est pas parlant parce qu'il y a une conférence en ce moment, je pense, un peu gesticulée. Donc, à mon avis, le public y est peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, quand je suis arrivé là tout à l'heure à 10h, il y avait du monde. Donc, ça veut dire que le public, de plus en plus, commence à s'intéresser et commence à peut-être à découvrir. Et ça, c'est une super nouvelle, en fait.
C'est une super nouvelle et on travaille effectivement, on essaye de diffuser l'information, pas que au milieu professionnel, pas que aux architectes, pas que aux élus. Et c'est pour ça que les rencontres, on les a organisées sur deux temps. Une première journée professionnelle pour voir les développements à venir sur les 3, 4, 5 dernières prochaines années. Et une journée grand public, effectivement, où on montre les métiers. Il y a vraiment une logique d'en faire des métiers vivants. De présenter le métier aux familles. On a des stands à l'extérieur d'artisans qui font des couvertures en loze, on a des carriers qui clivent des roches, on a des artisans bâtisseurs qui font des voûtes, et c'est important de voir ces métiers vivants, de les rapprocher des populations. On n'est pas sur des métiers musées, on est sur des métiers vivants, et on a voulu effectivement pour ces rencontres effectivement donner un espace pour le grand public. Alors ça peut être des gens qui souhaitent se reconvertir, on en a eu ce matin. Ça peut être des personnes qui ont des murs à restaurer chez elles, ça peut être tout simplement des personnes qui souhaitent se renseigner sur la technique, mais on a des enjeux aujourd'hui, on va dire, de bataille culturelle par rapport au tout béton, et pour ça, c'est convaincre le plus grand nombre, tout simplement, de la mise en œuvre qualitative de la loze, de la pierre sèche et puis de la pierre à bâtir.
Alors on va essayer d'abolir un cliché aussi. Le métier peut paraître difficile, dur. Est-ce que des jeunes qui voudraient arriver, ou même des gens en reconversion, etc., est-ce qu'on abolit ce cliché, ou ça reste quand même un métier difficile ?
On va parler sincèrement, le retour stagiaire en formation, c'est la terre est basse, les pierres sont lourdes, et quand il fait chaud, il fait chaud, et quand il fait froid, il fait froid. C'est un métier manuel, d'extérieur, mais c'est un métier qui passionne, en fait. C'est une rencontre avec un matériau. Ça, je pense que ce serait pas mal de discuter avec des bâtisseurs, parce qu'ils en parlent très très bien de leur métier. Et je pense que c'est cette sensibilité-là qui est à palper, en fait, à donner, à comprendre. Et souvent, c'est des rencontres, en fait. C'est l'histoire de rencontres. Donc, on peut faire des initiations à l'école de la pierre sèche, on fait des sensibilisations. Après, on a tout un tas de dispositifs. Nous, on est vraiment sur la partie professionnelle. Le but du jeu, c'est de qualifier des artisans. Mais effectivement, il y a des rencontres à faire, et c'est pour ça qu'on ouvre les journées au grand public.
Toi, à titre personnel, c'est pareil, c'est l'histoire de rencontre qui t'a amené à la pierre sèche. Comment ça s'est passé pour toi ?
Oh, c'est une histoire de rencontre. Et aussi un petit peu d'installation en Cévennes, de maraîchage pendant 4 ou 5 ans. Donc du coup, forcément, on remonte des murs. Et c'est une expérience que j'avais eue il y a une vingtaine d'années. Et du coup, effectivement, c'est une rencontre avec un métier passion et avec les artisans aussi qui font effectivement avancer ces filières par conviction, mais aussi, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment remarquable, on est dans quelque chose qui dépasse simplement le côté mise en œuvre de murs, etc. On est sur de la recréation d'autonomie par les savoir-faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait contemporain, nouveau. Il y a pas mal de filières qui prennent exemple sur ce qu'on a fait. Et je pense que remettre le savoir dans les mains des artisans, la capacité à faire, c'est aussi des projets. Et je pense que c'est des choix de vie, en fait. On rencontre un matériau, mais on rencontre aussi une philosophie, un savoir-faire. Et du coup, un projet de vie qui va avec.
Deux petites questions pour finir. Tu as abordé tout à l'heure le Parc National des Cévennes. En fait, quel est son rôle aujourd'hui dans la valorisation de la pierre sèche ?
Alors le parc, c'est un partenaire historique, hein. C'est faut remonter 20 ans en arrière, peut-être 25 ans même, où le parc s'intéresse à la pierre sèche et qui a l'impulsion en fait des premières rencontres de bâtisseurs. Et c'est un partenariat qui s'est fait en fait en continu avec l'association. Sur la plateforme de scientifique, sur des guides des bonnes pratiques, sur des ouvrages grand public, mais aussi sur des rénovations. On a une convention avec le parc qui existe depuis, je ne sais plus dire le nombre d'années, mais qui incite les collectivités territoriales à mettre en œuvre la pierre sèche. On aura cette année des formations d'élus. On aura des chantiers écoles qui vont être réalisés sur des communes adhérentes au parc. On aura des journées grand public. Et c'est du parcours gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça ce qui est intéressant à pointer. C'est la capacité du parc à avoir appuyé en fait les filières pierre sèche mais aussi l'ose pour préserver les savoirs, le patrimoine, mais aussi en fait recréer du développement économique, et c'est tout à fait novateur. Et c'est vrai que cet appui a été important. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'association Culture Pierre, donc la filière pierre artisanale, patrimoniale et locale, on a le parc qui est à nos côtés. En nous appuyant, qui va nous permettre aussi de toucher les autres parcs nationaux, d'appuyer la démarche, et on reste sur un partenariat gagnant-gagnant, on va dire, sur notamment la capacité de lecture des paysages, et on est sur un temps où on s'est occupé de la pierre sèche et de la lose au niveau des artisans. On a besoin aujourd'hui de convaincre les prescripteurs, de convaincre les élus, de convaincre tout un tas de gens, et avoir le parc à nos côtés, c'est un atout précieux.
Dernière question, elle est d'ordre économique. Alors, c'est une double question. Hein. Est-ce qu'on parle toujours de la difficulté de s'installer, de devenir artisan, etc. Enfin, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'on peut savoir combien un jeune qui s'installerait aujourd'hui peut gagner, etc. Est-ce qu'on gagne bien sa vie, mal sa vie ? Est-ce que c'est équilibré par rapport au boulot fourni ? Comment ça se passe ? D'abord ça, et après on parlera pour les gens qui veulent construire en pierre sèche ou en lauze.
Alors c'est une question hyper relative, et on a plein de modèles de bâtisseurs. On a des bâtisseurs qui s'installent en auto-entreprise, on a des bâtisseurs qui s'installent en EIRL, on a des entreprises qui emploient des salariés. Il y a tous les modèles, mais globalement on gagne sa vie en pierre sèche, effectivement. Les carnets de commandes sont là. Après c'est des projets de vie, et c'est des questions de dose, hein, combien vous voulez faire chantier et d'alternance. Et il y a surtout de la liberté autour du travail, sur la capacité à gérer son chantier, ses rythmes, son calendrier. Et je pense que c'est quelque chose qui est... On peut parler de la rémunération, enfin ça vous pouvez demander aux bâtisseurs, mais je pense que c'est surtout tout le projet de vie qui va avec. Voilà. Et c'est cet équilibre en fait qui est recherché, et la rencontre avec ce métier passion, effectivement, de retrouver. Enfin, c'est vraiment important aujourd'hui, au-delà de la rémunération, de trouver un métier qui a du sens.
Et donc justement, pour les gens qui voudraient construire en pierre sèche ou un toit en lauze, ça a la réputation quand même d'avoir un coût. Est-ce que c'est intéressant ? Enfin, on a déjà abordé tout le côté. Écolo, etc. Est-ce que c'est abordable pour tout le monde, ou alors est-ce que c'est quand même un prix, parce que forcément c'est un savoir-faire, c'est de l'artisanat aussi.
Alors sur la question de, je vais me prononcer sur la pierre sèche, hein. Je suis pas l'osier. Je suis partisan bâtisseur en pierre sèche, je suis modestement à dynamiser la filière au sein de l'association, mais comparativement à un mur réalisé en béton ou en banché, on n'a pas vraiment d'écart de prix, en fait, si vous voulez. Ça dépend de la hauteur du mur, etc. C'est-à-dire que de 0 à 1 mètre, de 1 à 2 mètres, vous allez être sur les mêmes prix. Et puis, selon la hauteur du mur, si vous montez à 5-6 mètres, on va avoir des écarts. Mais c'est un cliché un peu, le fait qu'on ait des surcoûts sur l'apiaçage par rapport à d'autres types de murs. Dans la mesure où, en fait, si un mur est correctement construit, vous avez un coût. Et en fait, souvent, ce qui fait l'écart, c'est qu'on accepte de construire des choses en dehors des règles de l'art, en fait.
Merci beaucoup.
Bonjour, je suis Vincent Cossanel, artisan muraille et losier dans le Lot, dans le Quercy, près de Rocamadour. Je suis aussi coprésident de l'association Les Losiers Couvreurs, basée à Mende.
Qu'est-ce qui t'a amené à la pierre sèche, comme ça?
Mais je crois que tout petit, avec mon grand-père, à la ferme, on allait remonter les murs en pierre sèche. Donc après, j'ai eu un cursus scolaire qui m'a permis de travailler sur le bâtiment. J'avais une passion pour l'histoire. Donc je suis vite rentré dans une entreprise de monuments historiques. Et puis un jour, je me suis posé la question de me mettre à mon compte, et dans l'idée d'avoir un peu la même philosophie que le monument historique. Mais pourquoi le bâti rural n'aurait pas les mêmes règles et on ne s'appliquerait pas à le restaurer convenablement?
Ça fait maintenant une vingtaine d'années que ça revient, ça doit te faire plaisir. Qu'est-ce qui explique que ça revient comme ça?
Je pense qu'on est dans l'air du temps, hein. Il faut penser à nos ressources, à gérer l'eau, voilà, matériaux de qualité, les matériaux locaux. Voilà, après on a des emplois locaux, on fait travailler notre territoire. Hein. Et puis bon, il y a tout cet aspect patrimonial qui est indéniable, qui est la priorité, donc il faut préserver. De plus en plus, bon, on est suivi, on est porté par toutes les structures, que ce soit les bâtiments de France, les CAUE, les parcs naturels régionaux, nationaux. Donc on est de plus en plus de jeunes artisans motivés pour retrouver ces savoirs. De plus en plus, les jeunes viennent nous voir parce que bon, c'est vrai qu'on travaille, on a un milieu rural, on a un cadre de vie qui est exceptionnel, on travaille sur des sites exceptionnels. Et puis on a entre nous une philosophie d'échange qui est énorme et qui nous permet d'apprendre de chacun, quoi.
Ça, tous les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens passionnants et passionnés. Il faut être passionné pour faire de la pierre sèche aussi, quelque part.
Ah oui, c'est un métier passion. Hein. C'est, bien sûr, c'est un métier dur, physique. Maintenant, on a quand même des moyens qui nous permettent de moins forcer, mais ça reste quand même un métier pénible. Après, on peut tailler, on peut se mettre à l'abri, on trouve des solutions. Mais après, voilà, moi j'ai des employés. Quand ils prennent la photo à la fin du chantier, pour eux-mêmes, voilà, c'est là où je suis le plus heureux, quoi. Au moins, ils sont impliqués comme moi sur les chantiers, quoi.
Alors là, on est devant ton stand. Est-ce que tu peux nous expliquer, faire une photo radiophonique de comment on fabrique un mur en pierre sèche?
Alors là, on est sur une toiture en pierre sèche.
Ah, c'est une toiture, d'accord.
C'est une toiture en loze. Alors, pour vous expliquer le métier de la loze, c'est en fait, on part de dalles naturelles difformes qu'on va travailler. Ensuite, on va les tailler, on va les écarrir s'il faut, si on travaille sur un pan carré. Ensuite, on va calibrer. Calibrer, c'est-à-dire on va les trier par profondeur. Hauteur qu'on appelle la hauteur de la loze, tous les 5 cm. Parce qu'il faut savoir, sur une toiture en loze, on part des plus grandes pièces qui sont en bas jusqu'aux plus petites pièces qui sont en haut. Alors suivant les pentes, ça peut varier. On peut être en Dordogne ou dans le Lot, on est à 30 cm en haut pour 50 à 60 en bas. Ici en Lozère, on va plutôt rester sur du 45 maximum en haut. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, l'eau se concentre plus en bas du toit qu'en haut, quoi. Donc c'est tout simple, c'est pour ça qu'on a plus de recouvrement, qu'on appelle en bas, en partie basse.
C'est génial. Et en fait, est-ce qu'on sait à peu près combien d'années, combien de temps la pierre sèche a été créée? Enfin, la pierre sèche, le toit en loze. Est-ce qu'on sait à peu près quand les hommes se sont dit on va le faire comme ça parce que c'est génial?
Alors la pierre sèche, moi j'ai eu la chance de travailler sur des sites de dolmens avec des archéologues. On s'aperçoit que le mur en pierre sèche était déjà présent sous les tumulus. même la pierre clavée qu'on appelle. Donc déjà ces deux techniques, ils les connaissaient. Dans certaines zones, on m'a rapporté, j'ai vu des photos de voûtes en encorbellement. Donc déjà qui pouvaient permettre une certaine étanchéité. Après la toiture, elle a eu au Moyen-Âge, elle a déjà existé. Après c'est difficile à dire vraiment la toiture, la technique de toiture depuis quand elle existe. Puisqu'après on a retrouvé nous dans le Quercy des bâtis ourages en pierre sèche, voûte en encorbellement, et après on avait une couverture en genêt qui complétait l'étanchéité. Alors après là c'est vrai qu'on est un peu dans l'inconnu. Puisque bon, c'est des matériaux, aucun édifice n'est daté. Hein, donc, et puis la pierre, on ne peut pas la passer au carbone 14, donc c'est assez compliqué.
Ouais. En tout cas, j'ai l'impression aussi que c'est remettre je sais pas, l'artisanat, le métier ouvrier au centre de quelque chose de fort. Contrairement à ce qu'on a vu dans les années 60 ou 70 où on a pris les ouvriers, pardonnez-moi l'expression, et pour des merdes en fait, vraiment travailler avec des matériaux de merde. Aujourd'hui on revient et à ça, à la noblesse d'un art qui est absolument génial et qui permet peut-être quelque part d'améliorer aussi les conditions de travail, même si ça reste un métier dur. Est-ce que je me trompe ?
Non, c'est en fait maintenant, en fait, notre travail demande beaucoup de main-d'œuvre. Déjà, c'est une valeur, une plus-value pour nos territoires. Hein. On crée du sens à nos travaux, à nos travaux. Et voilà, pendant quelques années, le ciment est apparu. On a fait en sorte de limiter la main-d'œuvre sur les chantiers. Quoi. Ce qui est aberrant, puisque en fait, la valeur ajoutée elle reste plus sur notre territoire. Quoi. On l'exporte. Quoi. C'est les grands groupes qui prennent toute cette valeur ajoutée. Donc le but, c'est quand même de faire travailler des gens sur nos territoires et puis voilà, de les préserver, nos territoires. C'est là qu'on est heureux, quoi.
Vous avez l'impression d'être écouté aujourd'hui, vous les artisans, par les politiques, etc. Est-ce qu'on va dans le bon sens, à ton avis ?
Oui, de plus en plus, les politiques nous suivent, ils voient ce qu'on fait, comment on a avancé, les APPS depuis 20 ans, les ALC maintenant depuis 10 ans, on commence à essaimer nos associations un peu partout en France. Donc de plus en plus, là aujourd'hui on le voit, il y a des gens qui viennent de la frontière de Suisse, il y en a hier, il y en avait de Marseille, il y en a de Corrèze, on a des contacts à Marseille, des bureaux d'études qui commencent à s'y intéresser. Comment calculer, c'est une problématique. Sur les ouvrages, il faut que pour eux, un mur en pierre sèche, ça ne tient pas. Mais non, ça tient. Si c'est bien construit, ça tient. La preuve, il suffit de faire un tour dans nos campagnes. Ça a 200 ans. Je ne sais pas si une maison qu'on construit maintenant durera 200 ans. Quoi. Donc oui, ça se développe de plus en plus. Les politiques sont vraiment... ils le comprennent, puisque c'est toujours du travail sur notre territoire. C'est l'économie locale qui est en jeu. Donc ils nous suivent de plus en plus, quoi.
Merci beaucoup, ça fait vraiment du bien à entendre, quoi. Et puis bonne fin de salon.
Merci à vous, bonne journée.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. Profitez-en bien, restez bien sur Barthas, on n'y est pas trop mal. À lundi, ciao.
Hitting on one, hitting on two, hitting on three. Pop a titty, 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 pop a titty
till I get back. Going downtown to see your man. Ain't got no time to shake your hand. Hit that giant jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see your man. Ain't got no time to shake your hand. Standing on the corner, I'm all full of jive. Pleading and begging with you, mama. All I wanted was five.
hit that jack. I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see your man. I ain't got no time to shake your hand. Laughing in rhythm. Laughing in rhythm. Stick your finger in your eye and you get crazy. Stick your finger in your nose and you go home free. Laughing in rhythm.
Stunning, balloon, 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 balloon,
Stunning, 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 stun